Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, juste après WebLathOS. Pour vous tenir informés de l'actualité scientifique, je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, bien évidemment. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite d'ailleurs. Donc, où que vous soyez, eh bien, vous pouvez récupérer ces podcasts et nous écouter n'importe où, n'importe quand. Nous sommes le 13 avril. Au niveau de l'éphéméride, en 1970, c'est l'explosion du réservoir d'oxygène du module de service de la mission spatiale américaine Apollo 13. Hein, c'était donc le 13 avril 1970. Et l'astronaute membre d'équipage Jack Swigert dit à la NASA « Houston, we have a problem. Houston, on a un problème. » C'était cette mission Apollo 13. Ça s'est bien terminé. Hein, on a tous vu le film, bien sûr, avec Tom Hanks notamment. Mais c'est passé le 13 avril 1970. Il est né aussi un 13 avril 1808, c'est Antonio Meucci, c'est un inventeur italien, notamment connu pour sa contribution à l'invention du téléphone. Antonio Meucci, tiens, c'est un nom qui ne nous dit pas grand-chose quand même. Son rôle dans l'histoire du téléphone a été officiellement reconnu il y a peu de temps, c'était en 2002 par la Chambre des représentants des États-Unis. Je cite le communiqué, la Chambre des représentants souhaite honorer la vie et les réalisations de l'inventeur italo-américain du 19e siècle, Antonio Meucci, et son travail dans l'invention du téléphone. On a plus en tête le nom de Bell pour le téléphone, mais bien c'est plutôt Antonio Meucci que l'on devrait retenir. Cet inventeur italien est donc né un 13 avril 1808. Le décès, le 13 avril 1910, d'Alexandre Massé, industriel et inventeur français. Il est l'auteur d'une invention d'apparence modeste, mais qui est une innovation d'importance mondiale. C'est le bouton de vêtement qui comporte 4 trous pour une meilleure fixation de fermeture. On le doit à Alexandre Massé pour son œuvre sociale à Quimper, qu'il a fait qualifier de philanthrope. Il a donc, c'est un nom assez important à Quimper, parce qu'il est né à Quimper. Il est mort à Paris le 13 avril 1910. Alexandre Massé, l'inventeur du bouton à 4 trous. Bon, on n'a jamais pensé à parler d'un bouton à 4 trous dans cette émission. Eh bien si, mais on parle de tout en fait dans cette émission, parce que là on est dans la science et plus précisément dans la technique. Alors, quelques articles que l'on va... Alors, encore dans cette émission, je pense qu'on va parler de plein de sujets qui n'auront pas de lien entre eux. Ça va être une revue de presse de l'actualité assez éclectique. On va commencer avec ce qui se passe dans le ciel et cette étoile. Dans notre ciel, il arrive que des étoiles deviennent de façon assez subite, très lumineuse, très brillante. Le phénomène dure quelques jours et les astronomes qualifient alors l'étoile en question de nova. C'est un nom venu d'un temps où l'étoile semblait alors nouvelle aux yeux des observateurs. Et cela fait désormais un petit moment que les chercheurs surveillent un système situé à environ 3000 années-lumière de notre Terre. Un système qu'ils soupçonnent d'être susceptible de nous offrir bientôt une telle expérience. Et le système en question, c'est celui composé d'une géante rouge et d'une naine blanche. Alors, le nom est assez compliqué. C'est le nom, c'est T. Coronae Borealis. Et donc, tous les deux, cette géante rouge et cette naine blanche, sont plus lourdes que notre Soleil. Or, il se trouve que la géante rouge, instable, éjecte régulièrement de la matière. La naine blanche, quant à elle, elle aspire cette matière jusqu'à elle, suffisamment pour provoquer des réactions thermonucléaires incontrôlées qui dopent alors la luminosité de tout ce système. Et la magnitude habituelle du système est de l'ordre de 10, qui traduit une luminosité très faible. Et il est déjà arrivé que l'éclat de ce fameux système T. Coronae Borealis deviennent des milliers de fois plus importants, la rendant visible aux observateurs sur Terre. C'était une fois en 1866, on a des écrits qui expliquent ça, puis ça a été en 1946. Eh bien, un rapide calcul laisse ainsi espérer qu'une nova apparaisse à nouveau très bientôt, donc on ne l'avait pas vu depuis 80 ans. D'autant que les astronomes rapportent qu'avant l'événement de 1946, l'étoile avait subi une atténuation notable. Or, ils notent qu'elle vient de faire de même. Donc du coup, on se dit, à mon avis, ça va se passer assez rapidement. Les chercheurs estiment donc que nous devrions nous attendre à pouvoir observer la nova entre février et septembre de cette année. Donc c'est pas encore le cas, mais ça ne serait tardé. La magnitude passerait alors à seulement de 2, soit une luminosité équivalente à celle de l'étoile polaire. Donc l'étoile polaire, on la voit à l'œil nu. Donc on pourrait vraisemblablement pouvoir voir cette étoile qu'on n'avait pas vue depuis 80 ans dans le ciel. Le tout se passera dans la constellation qu'on en appelle la couronne boréale, d'où Coronae Borealis bien sûr, un petit arc de cercle assez facilement identifiable. Donc tenez-vous au courant et comme ça vous aurez peut-être l'occasion de voir cette étoile qu'on n'a pas vue depuis 80 ans. Au niveau médecine, il y a une étude qui est parue récemment dans la revue Nature qui révèle que de nombreuses infections par le SARS-CoV-2, donc c'est le virus responsable de la pandémie de Covid-19, ces infections deviennent persistantes durant un mois ou plus. Cette découverte éclaire d'un jour nouveau la dynamique de la pandémie de Covid-19, notamment en ce qui concerne l'émergence de nouveaux variants et les défis aussi posés par ce qu'on appelle le Covid long. Jusqu'à récemment, l'hypothèse dominante attribuait la genèse des variants du virus aux infections prolongées chez les personnes immunodéprimées. Cependant, l'étendue et les implications des infections persistantes au sein de la population générale restaient pour l'instant mal comprise. Et donc cette nouvelle étude comble cette lacune en analysant les données de l'enquête sur l'infection par la Covid de l'Office des statistiques nationales du Royaume-Uni. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur des données assez conséquentes parce que là, ça implique plus de 90 000 participants et ça s'étend sur à peu près 2 années, novembre 2020 à août 2022. Et donc sur ce total, il y a plus de 3600 personnes qui ont fourni 2 échantillons positif ou plus, ce qui permettait le séquençage du virus. Et parmi elles, 381 ont été identifiés avec des infections persistantes d'un mois ou plus. 54, ça a duré au moins 2 mois. Les chercheurs estiment qu'entre 0,1 et 0,5% de toutes les infections par ce virus du Covid-19 peuvent devenir persistantes et durer 60 jours ou plus. Et de façon surprenante, certaines de ces infections persistantes étaient dues à des variants du virus depuis disparus dans la population générale, ce qui souligne la rareté de la réinfection par le même variant, probablement grâce à l'immunité qui est développée chez les êtres humains. L'étude a également examiné la relation entre les infections persistantes et le Covid long, révélant que les personnes avec des infections persistantes étaient 55% plus susceptibles de rapporter des symptômes de Covid long de plus de 12 semaines après le début de l'infection. C'est un peu comparativement à ceux ayant eu des infections plus courtes. Cela suggère en fait un lien possible entre la persistance virale et les manifestations prolongées de la Covid-19. Alors les chercheurs ont observé chez certains individus un nombre élevé de mutations, y compris celles qui caractérisent de nouveaux variants et qui modifient la protéine spike du virus, cette fameuse protéine on avait beaucoup évoqué au moment du Covid-19, parce que c'était une protéine que l'on souhaitait cibler. Toutefois, la majorité des infections persistantes ne présentaient pas un grand nombre de mutations, ce qui indique que toutes les infections persistantes ne sont pas nécessairement des sources de variants préoccupants. Cette étude, donc, elle souligne l'importance de la surveillance génomique communautaire pour comprendre l'évolution du Covid-19 et ses implications pour la santé publique, notamment ce qui concerne le Covid long et l'émergence de nouveaux variants. Et cette étude offre aussi des perspectives essentielles sur la dynamique virale prolongée et ses effets potentiels sur la pathologie du Covid long. Donc, on a donc des infections persistantes qui font leur apparition, qui sont différentes du Covid long. Et là encore, on est à chaque fois que l'on parle du Covid-19, je l'avais évoqué déjà depuis le début de cette pandémie, il va falloir attendre un peu pour avoir des études, des résultats d'études de plus en plus intéressantes en termes d'information. Et voilà, de plus en plus, on parle dans cette émission de résultats d'études, de recherches sur le Covid-19 parce que on essaye de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe en termes de pandémie, bien évidemment. Et puis, cette troisième information pour démarrer cette émission et qui n'a aucun lien avec ce que l'on vient d'évoquer, il aura fallu presque 100 ans pour retrouver le buste manquant d'une statue égyptienne antique. En creusant sur le site antique d'Hermopolis, qui est situé à 205 km au sud du Caire et à quelques kilomètres de la ville d'El Hashmounein, ce buste mesure 3,80 m. Il figure le pharaon Ramsès II coiffé d'une couronne et d'un ornement représentant un serpent, plus précisément un cobra royal. Ce fragment de statue massif vient se superposer à une paire de jambes qui avait été découverte en 1930 par une expédition allemande. Et donc, en tout, la statue mesure environ 7 mètres de haut, tel que l'explique le ministère du Tourisme et des Antiquités d'Égypte dans un communiqué qui a été publié il y a quelques semaines. Les nombreuses campagnes archéologiques dirigées en Égypte depuis le 19e siècle ont permis d'excaver de nombreuses statues de Ramsès II. Alors, si la récente découverte n'en reste pas moins impressionnante, ça reste quand même assez intéressant de voir qu'il y a eu de nombreux monuments érigés à sa mémoire. Alors, concernant donc ce site d'Hermopolis, il abrite les vestiges de l'une des plus importantes villes d'Égypte durant l'Antiquité. Alors, si le lieu a été délaissé après la chute de l'Empire romain, il y a quelques curiosités qui subsistent. Le rapport du ministère du Tourisme et des Antiquités détaille ainsi que les archéologues travaillent à déterrer et à restaurer une basilique romaine qui se bâti au cours du 6e siècle de notre ère, au-dessus des ruines d'un temple ptolémaïque. La basilique aurait été dédiée à la Vierge Marie. Donc voilà, on découvre pas mal de choses encore, et notamment ce buste de Ramsès II, découvert après 100 ans de recherche. On avait découvert les jambes en 1930, et là on découvre maintenant le buste. Pour Ramsès II, vous avez pas mal d'images que vous pouvez trouver sur Internet. Ça vous permet d'avoir une vision assez intéressante et global de Ramsès II. On écoute un petit peu de musique également dans cette émission Biotine. On alterne un peu de musique et d'actualité scientifique. À tout de suite. Thank you. ça fait du bien. C'était Mirage, Molly Lewis. Sur l'antenne de Graffiti, vous écoutez Butin tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et on va parler de cette clinique suisse qui fait des soins assez particuliers. Des milliards de personnes ont intégré l'utilisation des réseaux sociaux dans leur routine quotidienne. Une utilisation qui peut vite devenir addictive si l'on ne fait pas attention au temps que l'on passe à scroller nos écrans. Ce problème, eh bien, de nombreux médecins l'auraient constaté chez les jeunes internautes, pardon, qui seraient de plus en plus nombreux à devenir accros aux plateformes sociales, à tel point que pour remédier à cette tendance, il y a donc une clinique suisse qui a décidé d'ouvrir ses portes aux jeunes adultes souffrant de dépendance aux réseaux sociaux et notamment à TikTok, l'une des applis les plus populaires chez les jeunes. Donc on a Facebook, YouTube, WhatsApp et Instagram, hein, c'est le top 4 des réseaux sociaux qui seraient les plus utilisés à travers le monde, des réseaux sociaux créés il y a une quinzaine d'années et utilisés en masse par les internautes. Selon les chiffres donnés par l'agence We Are Social et l'entreprise Meltwater, environ 60% de la population mondiale serait composée d'utilisateurs actifs de ces réseaux et parmi ces usagers se trouvent de jeunes utilisateurs qui passeraient énormément de temps sur ces plateformes sociales. C'est ce que révèlent également ces deux organismes qui montrent dans leur étude qu'environ 45% des internautes âgés de 16 à 25 ans passeraient entre 3 et 5 heures par jour sur ces plateformes. Une utilisation excessive qui leur servira avant tout à se divertir. 78% d'entre eux utiliseraient ces plateformes pour discuter avec leurs amis, 61% pour passer le temps, 51% pour se détendre, 10% pour jouer. Cependant, depuis quelques années, il y a plusieurs médecins qui alertent sur le rôle addictif qu'aurait une utilisation excessive des réseaux sociaux, surtout pour les jeunes consommateurs qui en deviendraient plus facilement accros. Et cette dépendance, semble s'intensifier avec le temps, surtout avec l'arrivée du réseau social chinois TikTok, conçu pour visionner, réaliser et partager des clips vidéo. Eh bien, TikTok serait l'application la plus téléchargée au monde durant l'ensemble de l'année 2023 et l'une des applications les plus populaires chez les 12-19 ans. L'application qui a été lancée en 2016 se distingue de ses concurrents par une interface très dynamique où des vidéos généralement de courte durée sont jouées à la suite les unes des autres en suivant vos goûts. Un fonctionnement qui nécessite au final très peu d'efforts de la part d'utilisateurs et ça devient rapidement addictif. Cependant, il y a une étude publiée dans la revue Psychiatry Research qui révèle les effets dévastateurs, dépression, anxiété et stress. Et tout ça serait à l'origine de cette application, des impacts en particulier sur la santé mentale des jeunes utilisateurs et le côté, donc on l'a dit, addictif. Les usagers accros à la plateforme TikTok connaîtraient une situation plus défavorable que les autres en ce qui concerne la santé mentale, la famille et les conditions scolaires. Donc devant l'urgence de la situation, il y a donc cette clinique privée de Meringen située en Suisse qui a décidé d'agir. Elle qualifie l'application TikTok d'aspirateur à attention et donc les médecins suisses viennent désormais en aide aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans qui sont addicts aux réseaux sociaux. Et la clinique a donc ouvert un site spécialement dédié dans ces troubles, l'anxiété, la dépression, le stress. Eh bien, le médecin-chef et le directeur du centre explique que ce seraient ces troubles qui apparaîtraient le plus souvent chez les personnes accros à ces réseaux. Et donc, pour désintoxiquer ces tout nouveaux patients, la clinique miserait sur une thérapie comportementale dite dialectique. C'est une thérapie composée de modules individuels et en groupe qui consiste à organiser des activités sportives et artistiques et elle permettrait aux patients de trouver des alternatives saines à l'utilisation des réseaux sociaux sans pour autant interdire leur utilisation étant donné l'énorme présence de ces plateformes dans la société bien évidemment. Alors d'après certains médecins et ces médias sociaux, générerait des poussées de dopamine, ce qui pousse les consommateurs à y revenir. C'est un peu une circuit de récompense dans le cerveau qui sera activé de la même façon que lorsqu'une personne joue ou consomme de la drogue. Et le concept du contenu court de TikTok aurait tendance à accentuer cette addiction. Les utilisateurs, ils ont désormais la possibilité de visionner une grande quantité de vidéos en un temps record, des créations qui sont censées répondre à leur goût grâce au jeu des algorithmes. L'application développée par la société chinoise ByteDance avoue d'ailleurs s'adapter à l'évolution des attirances de ses utilisateurs en prêtant attention au contenu qu'ils suivent dans le temps, aux vidéos qu'ils regardent, aux musiques qu'ils représentent et ainsi de suite. Et la recette TikTok fonctionnerait extrêmement bien puisque le réseau social enregistrerait en moyenne 34 heures d'utilisation mensuelle, ce qui est quand même énorme, devant YouTube avec 28 heures et Facebook avec plus de 19 heures. Un succès qui aurait poussé Instagram et YouTube à lancer à leur tour ce qu'on appelle les réels ou les shorts, c'est-à-dire des fonctionnalités qui permettent de créer des vidéos courtes d'une quinzaine de secondes et qui, elles aussi, s'enchaînent rapidement sans besoin d'interaction de la part de l'utilisateur. Alors, comme on soupçonne les algorithmes de TikTok de créer une dépendance, notamment chez les mineurs, eh bien, l'Union européenne a récemment ouvert une procédure contre la plateforme et en réponse à cette accusation, la société chinoise a répondu avoir mis en place plusieurs mesures, comme la création d'un avertissement au bout de 60 minutes d'utilisation pour tous les utilisateurs ayant déclaré avoir moins de 18 ans. Mais l'option, elle reste contournable, hein, parce que chacun peut la désactiver ou il peut aussi mentir sur son âge. D'après certains spécialistes, les jeunes seraient les plus enclins à tomber dans une addiction aux réseaux sociaux. D'une part, parce qu'ils y passeraient plus de temps et d'autre part, qu'ils seraient rendus plus sensibles par leur cerveau toujours en développement. Et donc, concernant cette clinique suisse, les chambres individuelles seraient déjà toutes occupées, nous dit-on. Il y a 30 places de thérapie qui seraient prévues d'ici la fin avril. Donc, ils vous feront prendre à l'avance, hein, si vous souhaitez également faire cette cure de désintoxication de TikTok. Est-ce que vous voulez que je vous dise, prenez vos précautions et réservez à l'avance si vous voulez aller dans cette clinique suisse. Mais voilà, on en a là, hein, maintenant, ça y est. On arrive maintenant à des cliniques qui vont se spécialiser dans soigner les personnes qui sont accros à ce genre de plateforme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Autre chose, et cette fois on va parler de notre corps et notamment de notre sang, le sang qui serait saturé en microplastique. On considère que la quantité de plastique ingérée en moyenne par un être humain en 2024, c'est l'équivalent d'une carte bleue par semaine. L'érosion du plastique entraîne en effet la formation de petites particules, ce qu'on appelle les microplastiques, hein, leur taille est inférieure à 5 mm, ces particules sont capables de pénétrer notre corps par l'intermédiaire des aliments, par l'eau, même par l'air, et elles se retrouvent dans la circulation générale. La question, c'est quoi les conséquences sur notre santé ? Eh bien, une récente étude publiée dans la revue The New England Journal of Medicine s'est intéressée à la présence de microplastiques dans les plaques d'artérome, c'est au niveau des artères qui mènent le sang du cœur vers le cerveau, et les résultats sont finalement assez inquiétants. Des chercheurs italiens ont cherché des preuves de la présence de microplastiques dans les plaques d'athérome des artères de plus de 250 adultes opéré dans le cadre de cette artérosclérose. C'était il y a 3-4 ans que cette étude a été faite, mais les résultats ont été publiés récemment. Plus de la moitié des participants présentaient des microplastiques dans leurs plaques artérielles, d'après leur analyse chimique, mais également microscopique, ce qui veut dire qu'il existe une preuve visuelle de cette présence. L'équipe a ensuite suivi les participants de l'étude jusqu'en juillet 2023. Ils ont constaté que pendant cette période, ceux dont les plaques contenaient des microplastiques présentaient un risque 4 fois plus élevé de maladies cardiaques et de décès. Ces résultats, en fait, ça ne fait qu'établir un lien entre ces particules et les maladies cardiaques. Bon, ça ne prouve pas qu'elles en sont la cause. Ce n'est pas exclu la possibilité, bien sûr, d'autres facteurs de risque qui soient à l'origine de cette association. Toutefois, les chercheurs ont constaté des niveaux élevés de molécules inflammatoires dans les plaques qui contiennent du plastique, ce qui laisse penser que les microplastiques présents dans la circulation sanguine favorisent l'inflammation qui, elle-même, augmente le risque de crise cardiaque et d'AVC. Dans un monde où la production de ce matériau issu de l'industrie pétrochimique ne cesse d'augmenter, bien, il devient urgent de savoir comment ces molécules affectent notre santé. Les plastiques sont partout, ils ont contaminé tout ce qui constitue notre planète, hein, l'eau, l'air, la terre, et si leur omniprésence n'est plus à démontrer, eh bien, les effets sur les écosystèmes et la santé restent encore à explorer. Une recherche cruciale qui doit se faire en parallèle de l'éducation des populations au danger de cette exposition. Donc voilà, on découvre des microplastiques, notamment au niveau de ceux qui sont atteints d'artérosclérose. Mais voilà, on a encore finalement très peu de connaissances à la fois sur à quel endroit on stocke ce plastique au sein de notre corps humain, et on a aussi pour l'instant très très peu d'informations sur les conséquences au niveau de notre santé. Là, on a quelques pistes, mais on voit très bien qu'il va falloir poursuivre bien sûr les recherches et les investigations pour en savoir un petit peu plus. Autre information au niveau toujours de notre sang, un test sanguin qui pourrait permettre la détection du cancer colorectal. Hein. C'est une étude publiée dans la revue The New England Journal of Medicine qui montre qu'un simple test sanguin pourrait faciliter le dépistage du cancer colorectal chez des personnes qui présentent un risque moyen et qui ne présentent pas de symptômes. C'est ce qu'on appelle le test de Shield qui a permis de détecter correctement le cancer colorectal chez 83% des patients effectivement atteints par la maladie, ce qui a été confirmé ultérieurement par une coloscopie. Le reste des patients présentait un test négatif aussi bien que par un cancer colorectal. Alors, ce qui est intéressant dans cet essai clinique, c'est qu'il y a 8000 personnes qui y ont participé. Elles avaient entre 45 et 84 ans. Et donc, du coup, on a pu étudier quand même les résultats. L'étude visait en fait à comparer le test sanguin à la coloscopie, la méthode de référence pour le dépistage du cancer colorectal. Et en se basant sur l'ADN tumoral circulant, c'est-à-dire l'ADN qui est excrété par les tumeurs, eh bien, le test de Shield détecte les signaux du cancer colorectal dans le sang. Le test était plus sensible pour les cancers colorectaux, dont les cancers au stade précoce, et moins sensible pour les lésions précancéreuses avancées qui peuvent se transformer en cancer avec le temps. Actuellement, il est conseillé aux personnes présentant un risque moyen de cancer colorectal de commencer un dépistage régulier dès l'âge de 45 ans. Une détection précoce permettrait d'éviter plus de 90% des décès liés au cancer colorectal, mais plus d'un tiers de la population éligible au dépistage n'est pas à jour de son dépistage malgré les nombreux tests disponibles. C'est ce qu'expliquent les chercheurs. Ils estiment, ces chercheurs, que le test sanguin, dont le taux de précision est similaire à celui des tests de sel utilisés pour la détection précoce du cancer colorectal, eh bien le test sanguin pourrait offrir une alternative aux patients qui refuseraient les méthodes de dépistage actuelles. Toutefois, la sensibilité du test sanguin pour le cancer colorectal reste inférieure à celle de la coloscopie. Mais voilà, ça peut être une première étape qui permettrait peut-être d'avoir un test à plus grande échelle au niveau de la population pour la détection du cancer colorectal. Mais voilà, ça permet justement de pouvoir favoriser le dépistage et d'avoir des solutions, on va dire, plus acceptables, en tout cas qui permettraient peut-être à plus de personnes d'être dans cette phase de dépistage. Voilà, plein d'articles hein, comme ça que nous allons étudier, feuilleter dans cette revue de presse de l'actualité scientifique au sein de cette émission Biotine. On écoute aussi un petit peu de musique parce que ça nous fait du bien également. À tout de suite sur l'antenne de Graphite.
We
Realm, c'était Sechir sur l'antenne de Graphite. Qu'est-ce que c'est sympa cette playlist sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et j'ai trouvé ces deux articles qui vont évoquer Elon Musk. Alors on va commencer par celui-ci. Cet article de Futura Science qui nous parle de l'intelligence artificielle, que l'avenir nous réserve une singularité technologique bénéfique ou l'avenir nous réserve l'apocalypse causée par l'intelligence artificielle. Eh bien, il semblerait que l'humanité a encore un peu de temps devant elle pour profiter de sa position dominante actuelle, parce que selon Elon Musk, dans une interview lors de la conférence Bosch Connected World, le monde va manquer d'électricité pour le développement d'intelligence artificielle. Le milliardaire a prédit une double pénurie avec des difficultés d'approvisionnement depuis un an en processeurs neuronaux. Pour lui, il n'y aura pas assez de transformateurs abaisseurs de tension pour alimenter toutes les machines utilisées pour faire tourner les différentes intelligences artificielles. Il a ensuite enchaîné avec une petite blague. Nous allons manquer de transformateurs pour faire fonctionner les transformateurs. Elon Musk a ensuite prédit une pénurie d'électricité, de façon pure et simple. En plus des demandes grandissantes en alimentation pour le développement exponentiel de l'intelligence artificielle, il a également cité la transition vers les voitures électriques et que l'infrastructure actuelle sera insuffisante pour subvenir à tous ses besoins en électricité. En rappelant tout de même qu'Elon Musk est directeur de Tesla, donc c'est assez étonnant. Il mentionne aussi avoir d'abord craint l'apocalypse de l'intelligence artificielle avant de décider qu'il préfère voir un tel événement quand il se produira. Il a cité une malédiction chinoise très répandue en anglais mais dont aucune source n'a jamais été trouvée en chinois. Puissiez-vous vivre à une époque intéressante? Pour lui, la montée en puissance des intelligences artificielles sera tout sauf ennuyeuse. Je pense que nous sommes vraiment à l'aube de la plus grande révolution technologique qui ait jamais existé. Très bien. Donc à la fois il est optimiste et à la fois il considère qu'il y aura une double pénurie. Pénurie au niveau de l'approvisionnement, au niveau des processeurs et transformateurs, et pénurie d'électricité. Et ça, c'est la première fois, je trouve, que l'on parle d'une pénurie d'électricité. Et quelque part, c'est un sujet peut-être intéressant qu'il faudrait creuser, parce qu'effectivement, on est de plus en plus, avec le fait d'avoir des politiques bas carbone, le fait qu'on utilise de moins en moins les hydrocarbures, et qu'on remplace de plus en plus, et notamment au niveau des transports, les hydrocarbures par l'électricité. Alors, on met de côté comment on produit l'électricité, mais bon, on a besoin d'électricité. Et là, il explique que l'intelligence artificielle étant également très mangeuse d'énergie électrique, et puis tout le reste, toute l'électricité qui nous entoure, on pourrait être confronté à une pénurie d'électricité pour le développement de l'intelligence artificielle. Écoutez, bon, c'est ce qu'il dit, c'est une prédiction. On verra ça, bien évidemment. En plus, pour lui, on est sur des échéances assez courtes. Il parle d'une année à peu près, donc on va pouvoir voir ça assez rapidement. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Autre sujet qui concerne encore Elon Musk. Cette fois, c'est le message qui a été publié par l'Armée populaire de libération chinoise sur le réseau social Weibo. Nous exhortons les entreprises américaines à ne pas aider un méchant à faire le mal. Ce message un peu belliqueux fait suite à une dépêche de l'agence Reuters indiquant que SpaceX, la firme d'Elon Musk, conçoit des satellites espions pour le gouvernement américain. Ainsi, donc, l'agence de presse Reuters, la firme SpaceX, aurait passé un contrat $1,8 milliard avec l'agence qui gère les systèmes spatiaux de renseignement aux États-Unis, un contrat pour concevoir et lancer ces satellites espions. L'information est entourée de mystères. On ne sait pas combien de satellites espions pourraient être déployés, ni ce que serait leur capacité. Pour le moment, donc, l'agence qui gère les systèmes spatiaux de renseignement aux États-Unis, qui est l'agence NRO, la NRO exploite de gros satellites pour ses missions de renseignement. Et des satellites conçus par SpaceX, sans doute plus petits, pourraient quant à eux évoluer en constellation de centaines d'unités et fonctionner en réseau, à l'instar des constellations Starlink avec des liaisons laser. Il y a certaines informations qui laissent entendre qu'il y aurait déjà quelques prototypes de de ces satellites en orbite basse, et avec de tels satellites qui vont fonctionner en réseau, un peu comme un essaim d'abeilles, sauf que là c'est un essaim de satellites, eh bien des cibles potentielles pourraient être identifiées plus rapidement, mais avec un niveau de précision moins important par rapport aux gros satellites qu'on utilise actuellement. Cette information semble étroitement liée avec une annonce de SpaceX qui date de 2022. La société a indiqué alors qu'elle allait fournir au gouvernement américain une nouvelle constellation de satellites appelée Starshield. Elle serait dotée d'un système d'observation et de renseignements chiffrés, et le contrat qui aurait été signé un an auparavant avec les autorités américaines prévoyait effectivement la construction de centaines de satellites espions pour cette agence NRO. Alors, si cette information ne plaît pas à la Chine, bien évidemment, le pays ne mentionne pas pour autant Elon Musk dans son message au départ. Le milliardaire a en effet installé plusieurs usines Tesla en Chine et sa marque y connaît une croissance massive. Donc on ne va pas non plus nécessairement tout de suite se fâcher avec lui. C'est aussi un peu de diplomatie, bien évidemment. Alors pour le moment, on ne sait pas quand SpaceX compte lancer ses satellites Starshield, potentiellement plus volumineux que les Starlink. Ils pourraient bien être acheminés par la nouvelle fusée Starship lorsqu'elle sera pleine opérationnel, mais voilà, la Chine est un peu en colère parce que SpaceX produirait des satellites espions pour le gouvernement américain. Voilà, c'était ces deux informations qui concernent Elon Musk. On va partir cette fois en Allemagne avec un petit peu d'archéologie. La plus grande crainte des investisseurs immobiliers fait souvent le plus grand bonheur des archéologues, on le sait. À 150 km à l'ouest de Berlin, en Allemagne, une campagne de fouilles a débuté l'année dernière pour sonder les sols de la périphérie de la ville de Magdeburg. Et la découverte n'est pas des moindres. Au cœur d'une zone de 300 hectares reposaient les vestiges d'un site rituel et funéraire datant du néolithique. Dans un communiqué qui a été publié il y a quelques jours, le musée de la préhistoire de Saxe révèle quelques détails concernant cette intrigante découverte. C'est sur la colline d'Ellenberg que les archéologues ont concentré leurs recherches. Ils ont creusé les sols et ils ont constaté, ils ont réussi à exhumer deux chambres funéraires qui mesurent 20 et 30 mètres de long et elles ont une forme de trapèze. Largement constituées de bois, eh bien, les deux chambres ne sont séparées que de 200 mètres. Les universitaires ont rapidement pu établir l'âge de ces deux complexes qui ont donc été bâtis il y a environ 6000 ans et ils ont pu accueillir les restes de familles entières qui fonctionnent un petit peu comme une sorte de caveau en fait. L'âge du site correspond à la prédominance de la culture Balberg au centre de l'actuelle Allemagne. Cette société du néolithique qui se distingue notamment par son style de céramique, ben ça s'établit dans cette région autour de l'année 3800 avant Jésus-Christ et ça va s'enraciner pendant 400 ans. Et ce style, donc Balberg, ça évolue progressivement ensuite. Le site d'Ellenberg est toutefois utilisé par les sociétés locales au cours du millénaire qui suit. L'écart de 200 mètres formé entre les deux chambres funéraires pourrait avoir servi de couloir utilisé lors de processions rituelles. Les archéologues ont retrouvé des artefacts qui renvoient à la culture des amphores globulaires, cette culture qui prospère, on est vraiment dans les époques moins 3400 à moins 1000 à moins 2800 avant Jésus-Christ, donc on est quand même sur des zones assez lointaines en termes de temps. Et bien cette culture s'étendait sur une vaste partie de l'Europe centrale et en avançant sur le couloir un petit peu processionnel, et bien les archéologues ont découvert la tombe d'un homme âgé de 35 à 40 ans au moment de sa mort. En face du lieu de sépulture, il y a des restes de bovins qui ont été retrouvés dans la foulée. Ces animaux avaient environ 3 ans au moment de leur exécution, donc ils pourraient avoir été sacrifiés en offrande aux dieux selon les archéologues. On retrouve aussi des traces de sacrifices d'animaux en Europe datant du paléolithique, c'est un peu des rituels qui se sont perpétués au néolithique bien évidemment par la suite, et à cette période, sacrifier des bovins, c'était le signe d'une grande dévotion Le bétail était quand même une denrée précieuse pour ces sociétés préhistoriques. Donc à Eulenberg, eh bien, la campagne de fouilles devrait s'étendre jusqu'en avril, voire mai de cette année. Des tombes et des chambres funéraires plus récentes ont été découvertes au cours des dernières semaines. Ça suscite bien sûr l'enthousiasme des chercheurs. Le gouvernement fédéral allemand n'a cependant pas donné plus de détails concernant les mesures de préservation des vestiges, parce que le point de départ, on le rappelle, c'est qu'on voulait construire à cet endroit-là, donc on risque peut-être de préserver, enfin on risque, on va vraisemblablement préserver ce site, un site vieux de 6000 ans, retrouvé en Allemagne, et donc du coup on se rend compte que ce site funéraire permettait aussi de servir à des sacrifices rituels d'animaux. Voilà, au niveau archéologie, on en parle de plus en plus dans cette émission. C'est par vague, c'est par période où il y a quelques découvertes au niveau archéologie. Mais là, voilà, c'était intéressant de pouvoir l'évoquer dans cette émission. Allez, c'est bientôt la fin de cette émission. On va écouter encore une petite musique et puis on se retrouve juste après pour pouvoir finir de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. We'll be right back. Lost in the Steam, c'était Bonbon Noir sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, vous nous écoutez sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, en direct ou en différé, parce que vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite et bien sûr toute l'actualité de Graphite sur les réseaux sociaux. On a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure et notamment la page Facebook ou Instagram qui vous permet de vous tenir informé des différents programmes et partenariats et événements organisés par votre radio curieuse Graphite, bien évidemment. Vous écoutez pour la fin de cette émission Biotine, l'émission d'actualité scientifique qui nous permet de parler. Alors j'étais en train de faire un petit peu une petite sélection, j'ai tellement de choses que je ne sais plus quoi choisir à force, mais du coup je trouvais intéressant que l'on parle de la Chine et qu'on parle de l'espace. La première, on va parler des Américains, hein, des États-Unis et de la Chine, parce qu'entre eux, les tensions n'ont pas lieu que sur Terre et sur Mer, mais il y a aussi des tensions dans l'espace. Selon le site Defense One, le général Anthony Mastalier de la Space Force est inquiet de l'attitude de la Chine en ce qui concerne le traité spatial international. Il estime que le pays pourrait ne pas honorer ce traité vieux de plusieurs décennies et qui impose aux nations l'utilisation l'espace au seul profit de toute l'humanité. Le militaire se préoccupe en fait d'une potentielle attaque chinoise menée à partir de la Lune dans l'avenir. Il faut dire que les projets de la Chine pour s'établir sur la Lune sont menés en parallèle de ceux de la NASA avec l'émission Artemis. On en parle très souvent dans cette émission. Et donc tous les deux souhaitent construire une base lunaire. De son côté, la Chine nie ses suppositions d'utilisation de la Lune à des fins militaires. Le pays retourne même cette intention comme un argument de la part des États-Unis pour justifier l'extension de sa puissance militaire dans l'espace. Ok, donc ça commence à être un jeu entre les deux. Concernant les satellites, eh bien, ce général américain a également évoqué deux points de préoccupation aux médias spécialisés dans les affaires militaires. Alors le premier, ça concerne les satellites situés au-delà de l'orbite géostationnaire. Étant donné le nombre de satellites militaires et privés qui s'y trouvent, eh bien, la force spatiale américaine craint qu'ils puissent être attaqués, mais pas forcément depuis la Terre. De même, l'espace qu'on appelle cislunaire, c'est-à-dire en dehors de l'atmosphère terrestre et jusqu'à la Lune, fait l'objet de toutes ces attentions. Sur cette zone, le général s'inquiète d'une attaque qui pourrait être menée depuis l'espace et pourquoi pas à partir des installations chinoises sur la Lune. Elle pourrait alors viser des cibles terrestres. En conséquence, eh bien, la Space Force souhaiterait se donner les moyens de pouvoir atteindre sur de longues distances des armements positionnés dans l'espace ou sur la Lune. Reste à savoir qui est vraiment le méchant dans l'histoire. L'avenir nous le dira, mais voilà, ça commence à chauffer entre les deux. Et pendant ce temps-là, la Chine communique également sur ce qu'elle veut faire au niveau des lancements d'engins dans l'espace. On évoque régulièrement dans le développement d'armes de nouvelle génération comme les canons laser et ce qu'on appelle les railguns. Et bien du côté de la Chine, ces canons électromagnétiques pourraient être utilisés non pas comme des armes sur Terre, mais pour propulser des lanceurs dans l'espace. Au lieu d'un pas de tir, et bien les scientifiques chinois sont en train de plancher sur une piste de décollage de plusieurs kilomètres dotée de rails électromagnétiques pour lancer un véhicule. Selon les informations du South China Morning Post, eh bien, la rampe permettrait de propulser un engin plus long qu'un jumbo jet et d'une masse de 50 tonnes. Et il pourrait propulser cet engin à une vitesse vraiment importante. Une fois le véhicule en l'air, eh bien, ses réacteurs prendraient alors le relais. En fait, c'est l'idée un petit peu d'une catapulte. C'est ça tout simplement qui serait utilisé, une catapulte électromagnétique. Le projet est envisagé par la Société chinoise des sciences et de l'industrie aérospatiale. Et il y a déjà une rampe électromagnétique expérimentale de 2 km qui est déjà implantée dans l'ouest, à l'ouest de Pékin. Elle pourrait propulser des engins à près de 1000 km/h. Et l'ambition donc de cette société chinoise des sciences et de l'industrie aérospatiale est maintenant d'atteindre une vitesse de 5000 km/h, tout cela en allongeant cette piste électromagnétique. Alors pour l'organisation, il y a un tel système permettrait de réaliser de grandes économies en réduisant de façon drastique l'utilisation de carburant dans les fusées et dans les véhicules spatiaux. Le coût serait environ 50 fois moins cher qu'un tir de fusée par SpaceX. Une rampe de lancement électromagnétique, c'est pas nécessairement un concept nouveau. D'ailleurs, les trains Maglev utilisent un procédé presque similaire, mais pour envoyer un engin dans l'espace, eh bien c'est une autre paire de manches. Il y a d'autres pays qui œuvrent dans le secteur aérospatial, et notamment la NASA, qui ont déjà pensé, mais ils ont tous renoncé. Alors reste à savoir si les Chinois vont y parvenir, car ces rails électromagnétiques devront nécessiter une quantité colossale d'énergie pour propulser un engin sur plusieurs kilomètres à une vitesse supersonique. Mais donc, si ça se fait, ça serait quand même de façon technologique totalement révolutionnaire, bien évidemment. Donc voilà, il y a une petite guerre entre les États-Unis et la Chine, mais voilà, c'est assez... Je sais pas, je trouve ça assez fascinant, bien évidemment. On suivra ça dans la suite de ces émissions de Biotine. C'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine. On va continuer, bien sûr, à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique, bien évidemment. D'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Biotine et vous nous écoutez sur 94.9 pour la bande FM et graphite.net sur Internet. Merci de votre attention et on se retrouve samedi prochain. D'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.